Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment mieux vivre avec le diabète sucré? C'est le thème que nous abordons dans cette première partie de l'émission avec Dr. Louise Anyangé, directeur adjoint du programme national de lutte contre le diabète, le PNLD. Dr. Louise, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des nouvelles mesures pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Qu'est-ce que ça donne? Une semaine après le lancement, la mise en application de ces mesures, on en parle dans la deuxième partie de cette émission avec Monsieur Jésus-Noël Cheke, représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et on aura également Monsieur Valère Fumukani, directeur technique à la Commission nationale des préventions routières, CNPR, en sigle. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Faites le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission. Paul Badanyama assure la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous. Et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue, chers fidèles auditeurs. Merci de nous écouter partout où vous êtes en RDC, chez vous, à la maison, dans votre voiture, dans votre bureau ou partout ailleurs. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur www.radiocapi.net. Célébration le 14 novembre de la Journée mondiale du diabète autour du thème « Avec un accès approprié aux soins du diabète et un soutien au bien-être du patient ». Toutes les personnes atteintes du diabète ont la possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Et selon les experts, de nombreuses personnes diabétiques font face à des défis quotidiens pour gérer leur maladie à la maison, au travail, à l'école par exemple, et cela affecte leur bien-être physique et mental. Par ailleurs, le traitement du diabète se concentre souvent uniquement sur la glycémie, alors qu'une approche plus globale vis-à-vis du patient est nécessaire. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Il s'agit de Dr. Louise Anyangé, directeur adjoint du programme national des luttes contre les diabètes, PNLD en sigle. Dr. Louise, encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Okapi Service.
Bonjour, c'est Jody.
Bien, la première question est de savoir, c'est quoi le diabète?
Voilà, en termes simples, le diabète, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par le fait que on a des taux de sucre très élevés, mais qui restent de manière permanente. Et cela est dû par soit une sécrétion insuffisante d'insuline ou la résistance à l'insuline, ou les deux à la fois. Donc, bref, un taux élevé de sucre dans le sang de manière permanente.
Et c'est quoi l'insuline?
L'insuline, c'est une hormone. C'est une hormone qui est sécrétée par des cellules spécialisées au niveau du pancréas. Nous les appelons les cellules bêta des cellules de Langerhans, qui sécrètent de l'insuline, qui est une hormone qui a la particularité de baisser le taux de sucre dans le sang. Et donc, naturellement, lorsque nous mangeons, nous sécrétons cette insuline pour qu'elle soit en mesure d'équilibrer ou de baisser, faire baisser le taux de sucre dans le sang afin de permettre à l'organisme de fonctionner correctement.
Et c'est le pancréas, l'organe qu'on appelle pancréas qui sécrète
l'insuline. Et c'est l'organe qu'on appelle pancréas au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans qui a la sécrétion de cette hormone qu'on appelle l'insuline. Et donc dans le cas du diabète, soit cette insuline est sécrétée, mais en petite quantité, parce qu'il y a une déficit, il y a un déficit de sécrétion, soit qu'elle est sécrétée, peut-être la quantité peut être aussi suffisante, mais elle rencontre des difficultés pour être utilisée, donc il y a une résistance. Et donc, dans le deux cas, ça justifie le fait que la personne garde de taux de sucre élevé dans le sang.
Bien, alors, quelles sont les sortes de diabètes qu'on retrouve?
Bon, généralement, nous avons, pour le diabète sucré, nous avons quatre types. On a l'habitude de dire comme ça d'emblée parce que ce sont les types les plus fréquents. On a d'abord le diabète type 1, qui est un diabète caractérisé par le fait que le pancréas, ces cellules des bêta, les cellules bêta des cellules de Langerhans ne sécrètent plus de l'insuline. Et donc, dans ce cas, vous comprenez que la personne peut générer le sucre en interne ou manger, mais en ce moment il n'y a plus sécrétion naturelle de l'insuline et la personne garde de taux trop élevés du sucre dans le sang. Et donc en ce moment son traitement c'est prendre de l'insuline externe. Et donc c'est ça la caractéristique du diabète type 1. Et généralement on retrouve ce diabète le plus souvent chez les personnes le plus jeunes, inférieures à 40 ans.
Chez les plus jeunes.
Oui, chez les plus jeunes.
Pourquoi?
Chez le plus jeune, parce que il y a des causes hein, qui font que c'est généralement à cette tranche d'âge qu'il y a cette déficience absolue de la sécrétion d'insuline. Le diabète type 2, qui est le deuxième type, c'est le diabète le plus courant. On le trouve chez les adultes supérieurs à 40 ans. Et dans ce cas, c'est soit que cette insuline est sécrétée, mais en petite quantité, soit qu'elle est sécrétée, mais qu'elle rencontre de la résistance. Donc, dans ce cas, la personne garde toujours des taux de sucre élevés dans le sang. Donc, c'est le diabète le plus courant. On le trouve en environ 85 à 90% ou 95% de cas. Et le diabète gestationnel, ça, on le retrouve chez une femme n'étant pas connue diabétique, mais durant sa grossesse, à partir de la 28e semaine, elle peut développer un taux élevé de sucre dans le sang.
À cause de la grossesse.
C'est lié à la grossesse.
Et quand elle mettra au monde?
Quand elle mettra au monde, d'abord, ce diabète peut s'arrêter. Mais selon les études, ces patientes, en fait, ces femmes peuvent développer un diabète franc quelques années plus tard. C'est pourquoi même après l'accouchement, ce sont des femmes qui doivent être gardées.
Suivies.
Oui, elles doivent être suivies et faire attention à leur mode de vie. Okay. Et ça, c'est le diabète gestationnel. Et le quatrième type, c'est le diabète secondaire. Ça veut dire qu'il y a une cause bien connue qui fait que la personne développe le diabète. C'est notamment quand on est soumis peut-être à des traitements suite à certains produits qui ont comme effet secondaire l'élévation de taux de sucre dans le sang, les corticoïdes, ceux qui prennent des infiltrations, certaines contraceptions, contraceptifs ou certains d'autres traitements ou une infection généralement du pancréas ou une chirurgie. Donc bien, bref, il y a une cause bien connu qui fait qu'après la personne développe le diabète. Voilà en quelques termes
les quatre types de diabète, type 1, type 2,
diabète gestationnel et
le diabète secondaire. Bien, comment mieux vivre avec le diabète sucré? Nous avons déjà un auditeur en ligne, Thomas Ougeni, qui nous appelle depuis Bounia. Thomas, bonjour. Thomas, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Et bonjour au docteur ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Thomas?
Merci une fois de plus de la parole nous accorder, pardon. L'invité venait à peine ici de parler des types de diabète. Qu'à cela ne tienne, nous avons des questions. Moi, j'aimerais peut-être toucher d'autres aspects, par exemple liés aux facteurs. Voici la question. Quels sont les principaux facteurs de risque liés au diabète sucré et comment peuvent-ils être gérés? Parce que l'invité a parlé ici des types de diabète sucré. Moi, j'aimerais pas. Quels sont, par exemple, les facteurs de risque liés au diabète sucré et comment peut-il être géré? La deuxième question, même si l'invité n'a pas encore parlé, par exemple, de l'alimentation, moi, je pose directement la question. Quel est le rôle que joue l'alimentation dans la gestion du diabète sucré? Quel est le rôle de l'aliment? Quel sont le type d'aliments, en fait, qu'un diabétique peut manger, par exemple, lorsqu'il est diabétique? Et comment le patient peut-il adapter un régime alimentaire sain? Quels sont les régimes, en fait, qu'un diabétique peuvent adapter pour un régime alimentaire sain?
D'accord.
Mais aussi la troisième question.
Oui.
Souvent, on dit qu'il faut faire aussi l'exercice physique. Je pose directement la question. À quoi l'activité physique est-elle importante pour une personne atteinte de diabète sucré? Et quels sont ces types de, en fait, d'exercices physiques qu'un diabétique
Merci beaucoup Thomas. Nous parlons du diabète, comment vivre avec son diabète sucré. Le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Docteur Louise Anyangé, vous avez suivi les trois questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Thomas de Bounia?
Oui, bonjour papa Thomas, et voici les réponses à vos trois questions. La première question, c'était
facteurs
en rapport avec
risques.
Les facteurs de risque. Mmh. Oui, ici j'aimerais circonscrire le contexte. J'aimerais beaucoup plus parler du diabète type 2 parce que c'est le diabète le plus courant. Mmh. C'est le plus courant parce que c'est le diabète le plus fréquent, c'est le diabète qui occupe la plus grande proportion en termes de nombre de patients.
Et donc, d'ailleurs, avant de parler des facteurs risques, quel état des lieux vous faites de la maladie en RDC?
Voilà, nous n'avons pas une étude sur le plan national, mais il y a quand même des études parcellaires qui parlent des prévalences allant de 7 à 14%. Il y a même des enquêtes EDES qui venaient de sortir qui parlent vraiment des pourcentages alarmants du diabète. Mais sur le plan international, il faut savoir que globalement, c'est un malade. Plutôt une personne sur 10 est diabétique, malheureusement. Mmh. Et les statistiques vont toujours de manière croissante. Et selon nos études qui ont été réalisées par certains spécialistes des cliniques universitaires et par-ci par-là, même ici à Kinshasa, on a une prévalence allant de 7 à 14%.
C'est déjà beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, parce que quand vous imaginez que sur 10 personnes, une personne est diabétique, allez-y comprendre. Mmh. Et on a une grande population, et donc les statistiques vont dans ce sens-là. Et faudrait-il encore dire que nous ne connaissons pas la réalité, ça peut être plus que ça.
Oui.
Et actuellement, je vous informe que le diabète fait partie des maladies chroniques non transmissibles, et parmi les 4 maladie chronique non transmissible, il y a le diabète. Donc, ça constitue déjà un problème de santé publique.
Donc, c'est
publique.
Un problème de santé publique.
Oui, et nous vivons pendant une période de transition épidémiologique, parce qu'actuellement, le diabète lui-même, le chiffre, quand vous comparez, vous prenez les malades souffrant de paludes, de tuberculose ou du sida, vous les mélangez ensemble, ça ne fait même pas le nombre des diabétiques dans le monde.
Okay.
Voilà. Et donc, parler des facteurs de risque pour le diabète type 2, c'est une question très, très importante parce que c'est sur ces facteurs que nous devons jouer pour, n'est-ce pas, prévenir le diabète. Et même si on est déjà malade, on travaille sur ces facteurs, on peut ralentir la progression ou le développement des complications.
Quels sont ces facteurs, docteur?
Selon même les études qui ont été réalisées, parmi les facteurs, je peux citer d'abord le stress.
Le stress?
Oui, le stress, c'est un facteur très, très déclenchant du diabète type 2, parce que quelqu'un peut avoir ses prédispositions génétiques et tout, mais il faut une conjugaison d'un facteur environnemental pour que la personne développe la maladie. Et donc, le stress sur les routes
de Kinshasa, dans, par exemple.
Voilà. Le stress s'est avéré un facteur. Alors, oui, imaginez-vous, j'ai une émission, par exemple, à 10h. Je suis coincé dans les embouteillages. Mon corps va vite. Ma tension s'élève et puis mon taux de sucre aussi s'élève. Et donc, le stress s'est avéré. Le stress chronique.
Chronique.
Ah oui, d'accord. Parce qu'il faut aussi avouer que s'il faut parler du stress, parfois, un stress aigu, temporaire est important pour permettre à la personne de réaliser beaucoup de choses. Mais ici, nous parlons d'un stress qui est chronique, qui est permanent et qui peut être nocif pour la santé, notamment pour le diabète. À part le stress, nous avons la sédentarité. La sédentarité amène à l'obésité et l'obésité amène aussi à la résistance à l'insuline. Et c'est ce qui fait que la personne peut avoir sa sécrétion normale de l'insuline, mais suite à l'accumulation, par exemple, de taux de graisse dans son sang, il y a une résistance à l'insuline et la personne garde ce taux élevé de sucre dans le sang. Et donc, il y a le stress, il y a l'obésité, nous avons le tabagisme, nous avons l'alcoolisme, beaucoup de facteurs. Et puis, il y a d'autres facteurs. J'ai cité, par exemple, les facteurs modifiables, mais il y a des facteurs non modifiables. Il y a l'âge. Plus qu'on avance en âge, plus on est prédisposé ou exposé à développer ces pathologies.
Oui.
Il y a aussi l'ethnie. Donc il y a des facteurs qu'on peut pas maîtriser.
On peut pas aussi.
Oui, certaines ethnies. Donc on ne peut pas.
Lesquelles, par exemple, en RDC?
En RDC, on n'a pas identifié des ethnies en RDC. Mais ce que je peux peut-être dire en RDC, c'est qu'on avait remarqué depuis un certain temps qu'on avait beaucoup plus de cas du diabète type 1 des enfants issus de la province de Kwango, qui était de ses environs. Et puis il y avait certaines études, ex-Bandundu, il y avait certaines études qui les gens qui se sont quand même intéressés à comprendre pourquoi, et probablement c'était dû à la consommation de manioc qui n'était pas beaucoup longtemps trempé dans l'eau, il y avait une substance qui agirait peut-être qui interférerait avec la sécrétion de l'insuline au niveau du pancréas. Et ces enfants, on avait beaucoup plus d'enfants venant de Bandundu présentant le diabète type 1. Mais en ce qui concerne le diabète type 2, la littérature décrit certaines ethnies, par exemple de l'Asie, mais en RDC, étiqueter une ethnie comme ça de manière précise, ça n'a pas été réalisé.
D'accord.
Mais c'est question de comprendre que quand on est issu, par exemple, d'une ethnie dont on sait que elle est prédisposée à faire le diabète, quand on prend de l'âge, en ce moment, on peut pas maîtriser.
Oui.
Et puis, il y a d'autres facteurs, la génétique, l'hérédité, c'est ce que je voulais dire. Oui. Si on est issu des familles qui ont des antécédents du diabète, en ce moment, on porte, n'est-ce pas, cette prédisposition. Mais j'ai dit au début qu'il faille en ce moment avoir un facteur environnemental qui favorise le développement de ce diabète. Par exemple, si je suis issu d'une famille diabétique, je peux bien mener ma vie sans faire la maladie, mais si je suis exposé à du stress de manière permanente, ou je suis sédentaire, ou j'accumule beaucoup plus de graisse, ou je suis alcoolique, ou je suis tabagique en ce moment, ce sont des facteurs qui peuvent me pousser à développer le diabète. Mais il faut aussi parler de certains médicaments. Certains traitements aussi peuvent aussi être à la base du développement du diabète. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont souffert des douleurs chroniques, des arthroses et qui ont été longtemps infiltrées, ces corticoïdes peuvent aussi à la longue pousser la personne à développer le diabète, les contraceptifs et tout ça. Donc, certains types de médicaments ou de traitements peuvent aussi exposer la personne à développer le diabète. Et sa deuxième question?
Bien, sa deuxième question concerne l'alimentation. Alors, avant d'y arriver, on va accueillir deux autres auditeurs qui sont en ligne. Ismaël Mumpoy, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Omar Kigalo, vous nous appelez de Kinshasa. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour à Maître Omar.
On vous écoute, Ismaël.
Oui. La première question, je vais demander à Madame l'invité, quelles sont les conséquences pour une femme enceinte qui a le diabète. En guise du traitement, je demanderai ce traitement de diabète doit être curatif ou préventif. Et en plus aussi, pour la curiosité, je voulais savoir pourquoi cette maladie ne pouvait pas être considérée comme des maladies négligées en Afrique. Est-ce que cette prise en charge demande plus du temps, les moyens qu'on sort, comme la tuberculose, certaines autres maladies ont été prises en charge. Mais malheureusement pour le diabète, on ne comprend rien. Pourquoi cette maladie ne peut pas être prise en charge aussi comme on prend d'autres maladies.
Bien, merci.
Pour le traitement combiné par exemple à un diabétique qui a contracté par exemple le palis simple ou le palis grave, bon, comment on peut procéder avec le traitement sur en guise de perfusion contre la malaria et en même temps, parce que la tuberculose et plutôt le diabète, on les considère comme un carrefour de toutes les infections. Mais pourquoi on considère le diabète comme le carrefour de toutes les infections? Mais en plus, qu'est-ce qui explique un peu le surpoids d'une femme enceinte qui accouche un bébé? Et sa prise en charge médicale et gynécologique doit être adaptée à quel niveau ou quelles sont les unités de soins appropriées qu'une femme diabétique enceinte peut fréquenter? Est-ce que cela peut-il aussi avoir des conséquences pour les nouveaux-nés ou quand on parle aussi de l'hérédité de ce diabète, une femme qui est enceinte, quelles sont la probabilité
merci. Merci beaucoup.
De l'enfant qui va naître?
D'accord. Merci beaucoup Ismaël depuis Lubumbashi. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à Madame l'invitée, bonjour à Ismaël.
Quelle est votre préoccupation par rapport au diabète?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Première question, madame, par rapport aux facteurs, vous avez cité l'obésité, le stress, l'alcoolisme et le tabagisme, mais dans le langage populaire, on dit également que la consommation régulière des poissons sucrés peut aussi être la base du diabète. Est-ce que vous confirmez cela? Deuxième question, vous parlez du diabète sucré. Donc l'épithète sucrée, laquelle est sa raison d'être? Il y a des diabètes non sucrés ou c'est seulement... Parce qu'on parle de diabète, nous on voit le sucre. Et pourquoi l'insistance de l'épithète sucrée? Il y a aussi des diabètes non sucrés. Troisième question, est-ce que la consommation régulière d'objets amers, comme le bankoulou, comme le makassou, comme le ngadadia, peut permettre d'éviter le diabète? Dernière question, je me limite par là. Dans chaque démarche, il y a des causes, il y a également des solutions. Vous avez parlé des facteurs, mais que devons-nous faire, nous, citoyens congolais, pour prévenir et éviter les diabètes de manière préventive? Car la solution préventive est toujours meilleure que la solution curative. Voilà mes quatre questions, madame, je dis et je vous remercie.
Bien, merci Maître Omar Kigalo. Nous parlons du diabète. Comment mieux vivre avec le diabète sucré? On en parle aujourd'hui avec Dr Louise Anyangé, directeur adjoint du programme national des luttes contre le diabète. Bien, docteur, on revient à la deuxième question de Thomas qui veut savoir si l'alimentation a un rôle important, joue un rôle important en ce qui concerne le diabète.
Oui, et d'ailleurs l'alimentation constitue un grand pilier dans la prise en charge du diabète, parce que déjà en passant je dirais que quel que soit le meilleur schéma thérapeutique, d'ailleurs il n'y a même pas un meilleur schéma thérapeutique parce qu'on l'adapte au cas par cas, mais quel que soit le schéma, si l'alimentation ne suit pas, le patient ne sera pas équilibré. Et donc, parler de l'alimentation, c'est un grand sujet, mais bref...
Connaître quel type d'aliments prendre,
bref,
quel type d'aliments ne pas prendre...
Parce que je dois dédramatiser ici,
oui.
C'est pas un régime très contraignant. En réalité, une personne vivant avec le diabète peut tout consommer, mais c'est question de savoir quand et comment le consommer et à quelle quantité. Je m'explique.
Certains disent qu'il faut éviter les riz, parce que dans les riz, il y a beaucoup de sucre.
Je m'explique.
Oui.
Déjà, une personne vivant avec le diabète a un problème de gérer son sucre après le repas. Et dans ce cas, on leur dit d'éviter de consommer les sucres à réabsorption rapide. C'est les sucres de Kulongongo, les sucres qu'on trouve dans le biscuit, le chocolat,
les boissons, les boissons sucrées, les sodas.
Tout ce qui constitue le sucre à réabsorption rapide, on le trouve aussi dans les fruits, tout ça. Mais le corps a besoin de l'énergie. Et l'énergie qui fait fonctionner ou mouvoir le corps, c'est le sucre. Et dans ce cas, une personne vivant avec le diabète est appelée à manger, à consommer le sucre lent. Et le sucre lent, c'est ce qu'on appelle dans le langage médical les hydrates de carbone, qu'on trouve dans le riz, dans le foufou, dans le manioc.
Même dans le foufou, il y a du sucre.
Dans le pain, oui, dans le maïs. Mmh. Oui, il y a le sucre. Donc, ce sont les sucres lents. Dans les tubercules, par exemple, ce sont des sucres lents. Alors maintenant, quand nous éduquons sur l'alimentation, qui est un grand pilier pour la prise en charge du diabète, nous disons aux patients ou à ces personnes vivant avec le diabète de diminuer la quantité ou l'ingestion de ces sucres lents. Parce que même s'il est lent, lorsqu'on mange en grande quantité, on finira par ingérer de grosses quantités de sucre, ce qui sera préjudiciable, et on va assister à une élévation de taux de sucre après le repas, ce qu'on appelle une hyperglycémie, plutôt une hyperglycémie postprandiale. Et c'est difficile à l'organisme de pouvoir gérer cela. Et parfois, la dose du traitement qu'on a donné ne suffit pas pour pouvoir baisser dans les limites normales ce taux de sucre qui est élevé après le repas. C'est ainsi que dans le conseil sur l'alimentation, un patient qui a le diabète doit consommer beaucoup de légumes. Son assiette de légumes doit être la plus grosse assiette. L'hydrate de carbone doit être en petite quantité. Et même là, nous éduquons. Nous faisons ce qu'on appelle l'enquête alimentaire. Quand on est en face du patient, nous devons connaître quelles sont ses habitudes alimentaires. Est-ce que c'est un patient qui est habitué à manger toujours le riz parce qu'il est issu peut-être d'une ethnie qui ne mange que le riz? Est-ce que c'est un patient qui est habitué à son foufou chaud, sa boule nationale?
Oui.
Est-ce que c'est un patient qui est habitué à la chikwang et tout ça? Et l'objectif n'est pas vraiment de dire à ces patients de ne plus consommer du riz ou de ne plus consommer son foufou ou sa chikwang. Mais on montre à ce patient comment il peut continuer à manger son alimentation de base ou son aliment de base plutôt, tout en gardant une bonne glycémie. Et dans ce cas, on va lui demander de diminuer considérablement la quantité de cet hydrate de carbone. Et on garde le même volume dans le sens où si j'augmente la quantité de légumes, parce que dans les légumes, on trouve de moins en moins de sucre, en ce moment-là, la personne peut consommer un peu du riz, un peu de foufou ou un peu de chikwang. Et je voudrais noter quelque chose, je voudrais quand même signifier quelque chose. Même dans ces hydrates de carbone, les hydrates de carbone sont aussi classifiés. Il y a des hydrates de carbone, ça veut dire le sucre lent. Il y a des sucres lents qui ont ce qu'on appelle un indice glycémique élevé, ça veut dire après le repas, le taux de sucre est quand même très élevé. Et il y a d'autres aliments dont le taux est moyen et d'autres aliments dont le taux est bas. Et donc, nous voyons, nous passons en revue avec la personne, toutes ces catégories d'aliments, et aussi nous les adaptons en fonction de ses moyens, en fonction de ce qui existe sous le marché, pour lui montrer quel est le régime qu'il faut pour lui. Et donc, pour un patient, il peut te dire, quand je mange le riz, mon taux de sucre est très déstabilisé, ou quand je mange tel autre aliment, en ce moment, on va lui dire, à la place, tu peux remplacer par un autre.
Donc,
ou
le, si le tu sujet diabétique doit toujours avoir cet appareil-là pour vérifier le...
Bien sûr.
Le taux, comment ça s'appelle encore?
Le glucomètre.
Glucomètre.
Oui, et je vous annonce, parce que nous sommes en préparation de la journée internationale du diabète, qui sera célébrée le 14 novembre.
Oui.
Et dans ce cas, je vous annonce même la bonne nouvelle que nous sommes soutenus par le gouvernement à travers le président Félix Antoine Tshisekedi, à travers le ministre de la Santé et le ministère de la Santé en général. Nous avons reçu un don des glucomètres que nous allons passer dans la distribution à travers le pays. Et tout ça, c'est pour permettre, n'est-ce pas, à des établissements de soins d'avoir le moyen de diagnostic, le moyen de suivi de ces patients.
Ah, c'est à donner aux établissements.
Voilà, on va donner aux établissements et on pourra voir, selon la quantité qui sera livrée, si certains glucomètres pourront aussi être remis à des patients. Et tout ça, ce sont les moyens, n'est-ce pas, qui nous permettent de gérer la maladie.
Mais l'instant, mais, docteur. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Il y a les auditeurs.
Mais il y a aussi beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas encore répondu.
Tout à fait. On va accueillir Maître Christophe de Colésy et Madame Claudia également, qui est dans la même ville. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Bien, Maître Christophe de Colésy Yalisano, bonjour.
Bonjour, Monsieur Joly. Nous saluons Madame l'invitée. Merci de la parole.
Oui, Maître,
nous
quelle est votre question?
Nous avons suivi attentivement, Madame. Oui, quelques préoccupations, deux ou trois, Monsieur Joly.
Oui.
Et la première, combien de sortes de diabète existent-ils? Parce que Madame dit que il y a le diabète à base de sucre. C'est comme si qu'il dirait il y a une autre sorte plutôt de diabète. Alors, deuxièmement, par rapport au traitement, que Madame soit un peu explicite par rapport à nos amis tradis praticiens, quand vous y allez, ils vous confirment, prends ses racines, va boire un demi-verre le matin, un demi-verre le soir, un demi-verre, etc., vous allez guérir. Ils le disent, c'est vrai, je n'ai jamais pratiqué, mais que Madame soit un peu précise en termes de traitement. Est-ce qu'existe-t-il un produit, comme le cas pour la malaria, prend la quinine 21 jours par fois 7 fois, 3 fois la prise, donc qu'elle précise un peu en termes de produits, est-ce qu'il existe un produit pour traiter le diabète?
D'accord.
Enfin, je pense, il y a, quand vous arrivez quelque part, quand on voyage, vous dites, non, ça c'est le coca pour les diabétiques. Ça c'est le sucre
coca zéro
pour les diabétiques. Je ne sais pas, est-ce que madame peut y placer un mot? Je termine par dire, est-ce qu'on peut vivre sans sucre dans l'organisme?
Merci bien. Beaucoup. Merci Maître Christophe de Colésy. Merci de nous écouter à Colésy et à Lissano. Vous êtes à Manica, Dilala. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Madame Claudia, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité. Oui.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au diabète?
Ok, mes questions ont été abordées par mes prédécesseurs. Ça concerne juste... Oui, ça concerne les mesures préventives. Oui.
D'accord. Quelles sont les mesures préventives?
Oui, autre chose, Monsieur Jody, on voit un peu les gens prendre diverses substances, telles que mon prédécesseur vient de le dire. On prend pas mal de trucs, des racines, des trucs là, des super caboutchoucou. Il y a aussi des produits à l'aloe vera que les gens consomment sans cesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Merci.
Bien, merci beaucoup, docteur. Les questions, ça s'accumule. On va les vider peut-être rapidement. Alors, Maître Omar a posé une question de savoir est-ce que la prise d'Ngadia Dia, les makassou, tout ça, les trucs amers, ça permet de prévenir le diabète.
Oui, j'aimerais quand même conclure par cette question liée à l'alimentation. J'ai dit que c'est un sujet. D'ailleurs, je proposerai que je revienne parfois moi-même ou avec des collègues pour pouvoir en débattre parce que c'est très important. C'est très vaste. Je ne peux pas dans une émission comme ça parler de l'alimentation. Mais si on retient que, et d'ailleurs c'est valable pour toute personne, si on mange moins gras, moins sucré, moins salé, ça constitue déjà une base d'une bonne alimentation saine et équilibrée. Et on doit manger beaucoup plus les aliments qui ne favorisent pas une élévation de taux de sucre dans le sang, notamment beaucoup de légumes, le fruit. On doit boire suffisamment de l'eau. Et pour un malade vivant avec le diabète, il peut manger son plat préféré, mais regarder avec son clinicien ou avec son diététicien quelle est la qualité de son plat et adapter son repas avec l'alimentation. Parce qu'en passant, je peux même répondre à une question, on ne peut pas vivre sans sucre. Parce que le
sucre,
c'est le carburant qui fait fonctionner le corps. C'est comme un véhicule. S'il n'y a pas de carburant, il ne peut pas rouler. C'est une panne sèche. De la même façon, si nous n'avons pas de sucre dans le sang, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Donc, il faut avoir du sucre. C'est pourquoi les régimes très restrictifs pour les patients ayant le diabète qu'on prône ne sont pas à vulgariser. Parce que si je dois demander à mon patient de consommer toujours le fruit, plutôt le légume, sans avoir un hydrate de carbone, c'est mortel parce que c'est un patient qui sera toujours fatigué et n'aura pas assez de force pour pouvoir travailler.
Mais il y a des gens qui sont sous régime, ils se disent, nous on est des végétariens, on ne mange rien d'autre que
non, les... Non, non, manger végétarien, je ne m'oppose pas, oui. Mais quand on est malade, quand on a le diabète, que l'on ait le diabète ou pas, l'organisme a besoin quand même d'une source de sucre. Que ce soit un sucre à réabsorption rapide ou un sucre lent. Mais ici, parce que nous parlons du diabète, le sucre à réabsorption rapide est à proscrire chez le patient diabétique, mais c'est le même sucre que nous demandons à ce patient de le consommer lorsqu'il est dans un état qu'on appelle hypoglycémie. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit au début que tout est permis, mais c'est question de savoir quand et comment. Par exemple, si le malade sait qu'il ne peut jamais prendre du sucre à réabsorption rapide, lorsque ce malade sera dans un état d'hypoglycémie, ça veut dire un état qui fait que le taux de son sucre a tellement baissé, ce patient, quand vous lui donnez le sucre rapide, il va refuser et le patient va entrer en coma et il va mourir. L'expérience montre que nous avons perdu certains patients qui font que le médecin ou l'entourage constate qu'il est en hypoglycémie, il faut qu'on lui donne du sucre, mais il a dit niette, je ne peux pas recevoir parce qu'on l'a mis dans sa tête qu'il ne peut jamais prendre. C'est pourquoi l'éducation thérapeutique sur l'alimentation est très très importante parce que il faut éduquer le malade, il faut éduquer son entourage pour savoir dans certains états, c'est le traitement qu'il faut pour pouvoir sauver la vie. Mais en dehors de cet état d'hypoglycémie, le sucre à réabsorption rapide est à proscrire chez le patient. Alors, la question de savoir le gadiadja ou les choses amères.
Oui, les macas,
la saveur amère n'a aucune influence sur le taux du sucre.
Okay.
On a des aliments comme ça chez nous qu'on peut manger et qui ont des vertus thérapeutiques. Ça veut dire les aliments, par exemple, qui contiennent beaucoup de fibres. Ces aliments ont une spécificité d'éviter une réabsorption rapide après le repas. Mais ces aliments ne sont pas un traitement pour pouvoir guérir le diabète.
Certains parlent du gombo,
dongo c'est bon, et puis même le fumbo aussi c'est bon, même le pain complet, même les fruits. C'est pourquoi même quand nous conseillons à nos malades de consommer les fruits, on leur demande de consommer un fruit entier. Au lieu, à la place des jus synthétiques, on nous les déconseille de consommer ces jus. Parce qu'on a déjà filtré, même si c'est un jus naturel, on a filtré et en ce moment, vous consommez vraiment juste de l'eau avec tous les nutriments, mais il n'y a pas de fibres. Alors que lorsque vous consommez un fruit entier, par exemple une mangue que vous mangez, vous savourez, une orange ou une mandarine, en ce moment vous consommez aussi avec les fibres, et ces fibres forment comme une couche qui empêche une réabsorption rapide de taux de sucre, et en ce moment ça évite un pic de taux de sucre dans le sang après le repas.
Alors docteur, souvent sur le marché on parle de coca zéro, les sucres pour les gens qui sont sous régime. Est-ce que tout ça c'est vrai ou c'est commercial?
En réalité, il a été prouvé que les édulcorants naturels, j'insiste, naturels, n'ont pas une valeur glycémique. Ça veut dire ce sont des produits qui ont une saveur sucrée. Et qui, c'est juste pour tromper la langue et conserver le goût chez le patient, parce que la plupart de traitements, c'est lié au repas. Soit le malade doit prendre son traitement avant le repas, soit pendant le repas, soit après le repas. Donc le malade est obligé de manger. Et en ce moment, s'il perd l'appétit, et donc c'est difficile parfois pour la consommation de certains produits. Et donc, on a mis en place les édulcorants. Ce sont des substances qui ont une saveur sucrée. Mais qui n'ont pas une valeur glycémique.
D'accord.
Mais attention, c'est difficile de savoir si c'est vraiment la bonne qualité ou c'est vraiment un édulcorant naturel.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, même si c'est un édulcorant naturel, il y a des études qui ont été réalisées où on a fait certaines analyses où on prend peut-être un groupe d'individus ne consommant pas ces édulcorants, mais qui consomment juste, qui boivent ou leur thé ou qui les mettent pas du sucre, sans édulcorant, sans le sucre. Et puis d'autres groupes, on a donné les édulcorants. Après une observation, des études ont montré que le groupe qui a consommé des édulcorants avait quand même un taux d'hémoglobine qui est élevé. légèrement élevé par rapport à un groupe de patients n'ayant pas consommé ces édulcorants. Et donc, bref, nous déconseillons. Si un malade apprend à manger sans le sucre à réabsorption rapide, c'est la meilleure des choses, parce que pour plusieurs raisons, je peux en citer deux. La première, c'est que on ne connaît pas réellement si l'édulcorant consommé est de bonne qualité. Ensuite, s'il est accroché à ses édulcorants et qu'il est en rupture, parce que ce sont des produits importés, en ce moment, le malade risque de perdre l'appétit et perturber ainsi sa prise en charge. Le Coca Zéro, oui, c'est zéro, mais il faut savoir si c'est réellement zéro. Oui. Et donc, ça entre toujours dans le compte, n'est-ce pas, de ces édulcorants. Parce que si c'est réellement un réel Coca Zéro, en ce moment, ça n'a pas de valeur glycémique. Mais si ça a été manœuvré en ce moment, vous consommez, mais en réalité, vous aurez des taux de sucre perturbés. Et au final, l'hémoglobine, qui est un examen important dans la prise en charge du diabète et d'ailleurs dans l'évaluation de la qualité de la prise en charge, de l'équilibre glycémique, sera en ce moment-là perturbé si on consomme des produits qui n'ont pas vraiment une origine naturelle.
Bien, comment mieux vivre avec le diabète sucré? Il y a une question, pourquoi cette épithète sucrée?
Sucré parce que oui, il y a, je crois, deux ou trois auditeurs comme
qui
ça
sont
ont parlé,
sur ça,
sont revenus sur la même question. Oui, parce qu'on oppose le diabète sucré avec le diabète insipide. Le diabète sucré, c'est quand on trouve les urines, on trouve le sucre dans les urines. Alors que pour le diabète insipide, par exemple, en passant, qui est dû à des perturbations hormonales, la vasopressine, par exemple, en ce moment-là, l'organisme n'a pas la capacité d'absorber, n'est-ce pas, le liquide, et en ce moment le malade urine beaucoup, mais quand vous cherchez les urines dans le sang, vous n'en trouvez pas. Mais il faut noter que c'est un diabète très rare, c'est pourquoi on en parle peu ou on n'en parle presque pas.
Le diabète insipide.
Et voilà, le diabète insipide. On en parle peu, et dans l'émission, je n'en parle presque pas. Et donc, on préfère s'atteler, n'est-ce pas, à un diabète qui nous concerne et qui est le plus courant. Mais il faut retenir qu'il y a un diabète insipide et qui est lié à un trouble d'absorption de liquide dans l'organisme. Et là, ça concerne les hormones, le rein et consorts. Et la spécificité de ce type de diabète, c'est qu'il n'y a pas le sucre dans les urines.
Bien. On va accueillir Elvis de Kinshasa. Elvis, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Ouais, j'avais peut-être des questions, une question. Je voulais d'abord poser la première question est celle-ci. Est-ce que la diabète sucrée, est-ce que c'est seulement les gens qui sont obèses ou les gens qui ont un peu, est-ce que des gens qui sont de petite taille, peut-être celui qui a une taille mince, est-ce qu'il peut aussi développer la diabète? Parce que si j'ai posé cette question, c'est parce que on avait un problème avant la mort de mon père, parce qu'il s'est fracturé. On était à l'hôpital et puis lorsque le cas a gravé, on est venu dire que votre père est mort de sucre. Il avait aussi, mais il n'avait pas de grande taille. Alors est-ce que ça peut conduire, si quelqu'un est fracturé et il a un grand plaid, ça peut causer aussi la mort directement ou si la personne a beaucoup de sucre? Voilà ce que je voulais poser comme question.
Bien, merci Elvis. Maître Omar est de nouveau en ligne. Il a encore d'autres préoccupations. Non, il n'est plus en ligne. Bien, merci beaucoup, docteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Elvis?
Oui, bonjour Elvis. Alors, je peux dire globalement, le diabète, ça concerne tout le monde. Que l'on soit obèse, non obèse, que l'on soit
de petite taille,
de grande taille, que l'on soit
est-ce que c'est lié à la taille,
vieux ou jeune, c'est pas lié à la taille. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai parlé des facteurs favorisants. Il y a l'obésité. Il y a aussi la notion de l'accumulation de beaucoup de graisse, n'est-ce pas, dans le sang. Et ça favorise. Donc, quelqu'un peut être de grande taille ou peut avoir un surpoids ou être obèse, mais n'a pas, par exemple, un trouble au niveau de l'accumulation de graisse. Quelqu'un peut être apparemment de petite taille ou mince, mais a une dyslipidémie ou une mauvaise répartition de graisse ou une accumulation aussi élevée de taux de graisse dans le sang. Et c'est ainsi que le programme national a édité, n'est-ce pas, le guideline. Nous venions de mettre en place les normes et les directives sur la prise en charge du diabète. Et dans ce cas, parmi les recommandations, tous les établissements de soins doivent inclure le test de glycémie dans le sang. Parce que quand quelqu'un tombe malade, on ne sait pas qui a le diabète et qui ne l'a pas. Et donc, c'est mieux d'inclure déjà cet examen pour pouvoir, n'est-ce pas, faire le triage déjà de que le patient se présente dans un établissement de soins pour savoir s'il a une perturbation ou pas. Même ceux qui sont dans les entreprises qui font des examens annuels, il est bien toujours d'inclure cet examen. Et même pour cela, ils peuvent même faire beaucoup plus qu'une glycémie. Ils peuvent demander même en passant, parce que là, c'est un examen qui s'est fait de manière annuelle dans les entreprises. Ils peuvent faire l'hémoglobine glycée. Et puis, il faut nous prenons aussi sur l'éducation. Et d'ailleurs, la raison d'être même des émissions comme ça, où les gens doivent savoir que lorsqu'ils ne se sentent pas bien, lorsqu'ils vont à l'hôpital, c'est mieux aussi de connaître leur état de sucre. Quel est leur état de sucre en demandant leur glycémie. C'est important. Donc, bref, les gens qui ont un taux élevé de cholestérol dans le sang sont beaucoup plus disposés à faire le diabète de par une résistance à l'insuline, n'est-ce pas? Et ça peut être chez une personne mince ou une personne obèse.
Et souvent, on dit que les diabétiques doivent éviter les blessures parce que dès que tu te blesses,
effectivement,
ça va pas se cicatriser.
Exactement, parce que le diabète met le corps dans un état qu'on appelle une diminution de l'immunité. Le fait de garder un taux élevé dans le sang, ce sang-là circule dans tout le corps, dans tous les organes. C'est ainsi que tous les organes du corps humain sont concernés. Et même quand la personne arrive au stade de développer des complications, vous allez voir qu'il y a des complications disséminées dans les différents organes. Et les organes tombent malades l'un après l'autre en fonction de leur déficit. Et donc quand on a son diabète, on garde un taux très élevé de sucre dans le sang. C'est comme si on a un poison retardé, parce que à la longue, l'organisme finit par se blesser de manière progressive et la personne développe aussi des complications respectivement dans tous les organes de manière progressive. On peut avoir des problèmes au niveau du cerveau, on peut avoir des problèmes au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau de reins, au niveau de sexe, au
beaucoup
niveau
de
la
complications.
Peau, beaucoup de complications. Et ça fait que chez les diabétiques, il y a une diminution, n'est-ce pas, de l'immunité et aussi au niveau des extrémités. Et le sang ne circule pas convenablement parce qu'il y a des complications. En fait, dans le diabète, il y a des complications aiguës et des complications chroniques. Et dans les complications chroniques, on parle des complications liées aux gros vaisseaux et aux petits vaisseaux. Et donc, généralement, au niveau des extrémités, il n'y a pas une bonne circulation du sang. Et s'il n'y a pas une bonne circulation du sang, ça veut dire que le sang n'arrive pas correctement au niveau des extrémités. L'oxygène n'y arrive pas convenablement, les nutriments n'y arrivent pas convenablement. Et à ce niveau, s'il y a une blessure, c'est une porte d'entrée des infections, alors que l'organisme n'est plus en même de se défendre. Et donc, une petite plaie, c'est une gravité chez une personne ayant le diabète. Et ça doit être correctement pris en charge parce que ces complications sont néfastes, sont très graves. La personne peut développer des ulcères parce que la plaie traîne à cicatriser. La personne peut développer même ce qu'on appelle une gangrène. Et dans notre culture, les gens ont du mal à accepter un traitement radical où le médecin te dit il faut faire une désarticulation ou il faut amputer. Les gens tergiversent.
Oui.
Et parfois, lorsque le patient où la famille décide d'accepter un traitement médical, ça devient tard. Et beaucoup décèdent, n'est-ce pas, des complications liées à ces petites plaies négligées au départ.
Ça peut amener à l'amputation.
Beaucoup des cas d'amputation, parce que c'est la plus grande complication aussi liée à la complication chronique liée au diabète.
Bien, alors docteur, comment mieux vivre avec le diabète sucré? Le thème de la célébration du 14 novembre, c'est avec un accès approprié aux soins du diabète et un soutien au bien-être des patients, toutes les personnes atteintes de diabète ont la possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Voilà, déjà, c'est un message réconfortant.
C'est quand même un très long thème. Hein?
Oui, non, mais le thème, il est petit. Le thème, c'est le diabète et le bien-être. Ah. Ça veut dire qu'on peut avoir son diabète, on peut vivre avec son diabète tout en ayant le bien-être. Une personne ayant le diabète, c'est une personne comme toutes les autres personnes, à l'exception du fait que cette personne traîne des taux de sucre élevés dans le sang. Et c'est question que cette personne comprenne ce qu'elle doit faire pour pouvoir équilibrer ce taux de sucre élevé dans le sang. pour lui permettre de mener une vie normale et avoir un bon style de vie comme tous les autres. Déjà même pour le diabète type 1, chez nos enfants, ce sont des enfants qui ont des potentialités, des capacités comme tous les autres enfants. Et c'est question que la personne ou que la famille accompagne d'abord ces jeunes enfants à bien se faire soigner et à équilibrer son taux de sucre le plus tôt possible et à garder ce taux de sucre équilibré par la prise quotidienne régulière de son insuline et une alimentation saine et équilibrée. Et l'enfant va mener correctement sa vie. Nous avons Dr. De Klerk qui est notre grand-mère, l'initiatrice de la prise en charge du diabète dans le soin de santé primaire ici en République démocratique du Congo. C'est elle qui a mis en place les premières cliniques de prise en charge des enfants ayant le diabète. Et je vous informe qu'il y a eu plusieurs enfants qui ont commencé le traitement et qui sont devenus adultes actuellement et qui se sont mariés et qui sont devenus des médecins, ça, oui. Des avocats, qui exercent toutes sortes de métiers. Mmh. C'est pour dire que avoir le diabète n'est pas une fatalité, c'est question de savoir comment bien vivre et le mot magique c'est bien gérer son diabète tout en ayant une bonne surveillance. Et chaque type a aussi sa surveillance. Pour le type 1, absolument de l'insuline, pas question toujours de dire j'amène l'enfant à la prière et laisser l'insuline de côté, n'est-ce pas? Il faut prendre de l'insuline, oui. Suivre une alimentation saine et équilibrée, respecter ses rendez-vous médicaux.
La pratique du sport est recommandée.
Oui, je vais parler parce qu'il y avait aussi une question sur ça. Oui. Et pour ces enfants, je vous informe que nous avons des cliniques diabétiques de prise en charge gratuite. Et donc, on a 6 cliniques ici à Kinshasa, mais il y a d'autres cliniques dans les provinces où ces enfants, quel que soit l'endroit où on a diagnostiqué le diabète type 1, allant de 0 à 18 ans, cet enfant peut bénéficier des consultations gratuites, des traitements gratuits, on lui donne de l'insuline, il y a du glucomètre, il y a des bandelettes, on donne tout gratuitement, voire même certains examens annuels pour prévenir ou contrôler les complications. Et donc, nous avons une clinique à l'Armée du Salut, nous avons une clinique à la Deuxième Rue, nous avons une clinique à la maternité Kitambo, on a une clinique à Moamba, côté campus, entre le campus et le CNPP, on a aussi une clinique vers Tchango. Et donc, bref, ces enfants peuvent bénéficier de la prise en charge gratuite, et même au niveau des provinces, il y a aussi des cliniques comme ça, c'est question que les gens se rapprochent, n'est-ce pas, des institutions à côté. En fait, ils peuvent appeler même au niveau du programme national pour avoir toutes ces informations. Et pour le type 2, le maître, j'ai parlé des piliers. Il n'y a pas que le médicament. Dans le type 2, il y a d'abord l'éducation. Et nous appelons ça l'éducation thérapeutique. Ça veut dire que c'est l'éducation traitement. Parce qu'il y a des patients qui peuvent gérer tout simplement leur taux de sucre tout en suivant une éducation et avoir une alimentation saine et équilibrée.
Oui.
Mais il y a aussi des médicaments qu'on appelle les antidiabétiques oraux et qui ont aussi plusieurs principes actifs. Et il y a des médicaments pour sensibiliser beaucoup plus les cellules à produire de l'insuline. Il y a des médicaments qui améliorent l'utilisation de l'insuline. Il y a des médicaments qui diminue un peu l'appétit, il y a des médicaments qui empêchent un peu plus la réabsorption de sucre. Donc, beaucoup de types de médicaments qui sont développés actuellement pour pouvoir aider les patients à vivre correctement avec leur maladie. Mm-hmm. Donc, il y a aussi de l'insuline hein, chez les diabétiques type 2 parce qu'il y a des moments où ils peuvent devenir déjà, la sécrétion peut être quasiment nulle et en ce moment, quel que soit, même s'il a le diabète type 2, il doit prendre de l'insuline ou il a d'autres pathologies qui déstabilisent parce qu'il y avait même une question, il peut faire une maladie, il peut avoir une autre infection qui déstabilise complètement son taux de sucre et en ce moment la molécule la plus indiquée c'est l'insuline ou il peut y avoir la chirurgie. Bref, il y a plusieurs situations qui font que un malade ayant le diabète type 2 peut avoir de l'insuline. Bref, pour bien vivre avec la maladie, il faut bien la connaître et
bien la gérer.
Bien la gérer. Et bien la gérer, ça veut dire je dois savoir, je dois prendre correctement mon schéma de médicaments qui a été prescrit par le médecin. Mmh. Je dois garder un contact permanent, respecter le rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on soigne le diabète à travers le monde. Je dois manger sainement et de manière équilibrée. Et puis, je dois aussi, en fait, manger sainement. Nous, on met tout ça dans le compte du changement de mesures hygiéno-diététiques. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi ce qu'on boit. je dois éviter la consommation de boissons sucrées. En passant, il n'y a pas jusque-là des études qui ont prouvé une relation directe entre consommation de boissons sucrées avec l'éclosion du diabète. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la consommation accrue, n'est-ce pas, de ces boissons sucrées pousse le pancréas à produire davantage de l'insuline.
L'insuline, oui.
Parce
c'est
que c'est l'insuline.
L'endommager, quoi.
Exactement, parce qu'au final, il va se fatiguer.
Bien,
et quand
docteur.
Il va se fatiguer, en ce moment-là,
oui.
Il y aura une résistance,
merci,
n'est-ce
docteur.
Pas
Merci, on est arrivé à la fin de l'émission, ça passe tellement vite.
Ça passe tellement vite, alors que j'avais encore beaucoup de choses à faire.
Vous allez revenir, docteur Louise Alliangé, voilà. Directeur adjoint du programme national.
Mais si je peux dire un mot pour la journée mondiale, oui, parce que c'est le 14 novembre,
oui.
Et nous serons à l'INPS, et tout celui qui pourra venir le matin, nous avons une matinée scientifique. Où le directeur Luc Ferdinand Kamanga pourra prendre la parole pour pouvoir parler des perspectives de la prise en charge du diabète en République démocratique du Congo.
Merci docteur Louise Anyangé. À la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup.